Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Nous sommes le mardi 16 juin 2020. Jacques Aristide pour vous accompagner dans Le Monde aujourd'hui à la une de l'actualité ce soir. En Guinée, allègement du couvre-feu à Conakry, la capitale, et réouverture prochaine des lieux de culte et de certaines écoles fermées pour contrer le coronavirus. L'affaire des surfacturations de matériel militaire au Niger, l'État doit 18 milliards de francs CFA aux fournisseurs d'équipements d'après leurs avocats.
Les Nigériens et les Nigériennes ont compris pourquoi une manifestation pacifique, régulièrement déclarée et qui n'a pas été interdite, a été brutalement réprimée.
Des États africains demandent une enquête de l'ONU sur ce qu'ils qualifient de racisme systémique aux États-Unis. Dans l'actualité également, Berlin juge importante la présence de troupes américaines en Allemagne que le président Donald Trump veut réduire. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économie et sport à venir dans environ 10 minutes. Au Mali, le bilan d'une embuscade tendue hier aux forces armées maliennes est d'au moins 24 morts. On fait état également de soldats toujours portés disparus, de blessés graves et de véhicules brûlés. L'attaque a eu lieu dans la région de Ségou, dans le centre du pays. Le point avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Les femmes sont tombées dans une embuscade le 14 juin 2020 dans le secteur de Djabali, région de Ségou. Suite à cet accrochage, les femmes déplorent des portées disparues. Un renfort a été dépêché sur les lieux. C'est ce qui a permis la découverte sur les lieux de 24 corps, 2 pick-up et 2 qui a calciné. L'identification de certains corps est difficile en raison de l'état de putréfaction avancé. Certains d'entre eux ont été enterrés sur place. Par ailleurs, une équipe de Djoura était en route pour Songo pour récupérer un groupe de 8 rescapés. Et les autorités militaires locales, en faisant le point de la situation de la patrie, disent que les femmes ont été accrochées dans la localité de Boukaware, située à 18 km au sud-est de Djabali. Avant de conclure que c'était au départ un effectif de 64 hommes avec 2 lieutenants de la garde nationale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Toujours au Mali, dans le cadre de la recherche d'une solution à la crise politique, le président Ibrahim Boubacar Keïta a fait une déclaration devant les forces vives ce mardi. C'était au Centre international de conférence de Bamako. Il a dit qu'il y aura l'application de l'article 39 pour les enseignants. Il a également promis une solution à la crise post-électorale et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Avant de conclure, en disant que Soumaïla Cissé est en vie, nous en avons les preuves, nous connaissons ses ravisseurs. Les négociations continuent, Soumaïla Cissé est le chef de l'opposition du pays. L'État du Niger doit 18 milliards de francs CFA aux principaux fournisseurs d'équipements militaires cités dans la médiatique affaire des surfacturations et des livraisons non effectuées ces dernières années. C'est ce qu'ont déclaré leurs avocats aujourd'hui. Ces impayés concernent les différents contrats exécutés dans le cadre des achats d'équipements au ministère de la Défense et les auteurs du rapport d'audit l'ont reconnu, a déclaré Maître Marc Le Bignan, avocat de l'homme d'affaires nigérien Boubacar Ima, alias Petit Boubé. L'affaire a fait grand bruit au Niger après la diffusion sur les réseaux sociaux d'extraits d'un rapport d'audit sur ces irrégularités. Nous y reviendrons tout à l'heure dans la partie magazine. En Guinée, le président Alpha Condé a annoncé hier soir un allègement du couvre-feu à Conakry et la prochaine réouverture des lieux de culte et de certaines écoles fermées pour contrer le Covid-19. Claire Morin-Gibourg.
Les statistiques sont encourageantes, a déclaré Alpha Condé concernant le taux de guérison et le taux de mortalité du Covid-19. Le président guinéen a cependant souligné les risques d'un relâchement et a prolongé l'état d'urgence de 30 jours. La mesure doit toutefois être approuvée par le Parlement. Les frontières restent fermées et le port du masque est obligatoire dans l'espace public, a précisé le chef de l'État guinéen. Le couvre-feu dans le Grand Conakry est ramené de 23h à 4h du matin et il est entièrement levé dans le reste du pays. Les classes d'examen du primaire et secondaire ainsi que des universités rouvriront le 29 juin, mais avec des mesures sanitaires strictes, lavage systématique des mains, prise de température, port du masque et distanciation sociale obligatoire. Les mosquées et les églises sont autorisées à rouvrir le 22 juin dans les préfectures qui n'ont pas enregistré de contamination pendant au moins 30 jours. La Guinée a déclaré plus de 4500 cas de contamination, dont 26 décès.
La Banque mondiale a décidé de débloquer 1 milliard de dollars pour financer deux chantiers lancés par les autorités en République démocratique du Congo. Le Conseil des administrateurs a approuvé un financement de 800 millions de dollars pour l'école et de 200 millions pour améliorer la santé maternelle et infantile. Grâce à cet appui, plus de 9 millions d'enfants vont pouvoir être réinscrits et retournés en classe lorsque les écoles rouvriront après le confinement. Le programme va aider le gouvernement à mettre en œuvre la réforme sur la gratuité de l'enseignement primaire, a ajouté la Banque mondiale. En Tanzanie, le président John Magufuli a dissous le Parlement pour permettre la tenue des élections générales d'octobre. Il a promis que le scrutin serait libre et équitable dans un pays où l'opposition ne cesse de dénoncer un climat de peur et de répression. Le Parlement devait être dissous conformément à la Constitution pour permettre la tenue des élections présidentielles et législatives. La date du scrutin n'a pas encore été fixée. Les États africains veulent une enquête sur ce qu'ils appellent le racisme systémique et la violence policière aux États-Unis et dans d'autres pays. L'ambassadeur du Burkina Faso aux Nations Unies, au nom de 54 pays d'Afrique, a déposé hier un projet de résolution au Conseil des droits de l'homme à Genève. Eric Manirakiza.
Le texte circule parmi les diplomates pour consultation avant un débat demain sur le sujet au Conseil des droits de l'homme basé à Genève. Dans le projet de résolution, le groupe de pays africains condamne fermement les pratiques raciales discriminatoires et violentes des forces de l'ordre contre les Africains et les personnes d'origine africaine et le racisme endémique structurel du système pénal aux États-Unis et dans d'autres parties du monde. Il demande l'établissement d'une commission d'enquête internationale indépendante. Son but serait de traduire en justice les auteurs de violences. Les enquêteurs devraient aussi examiner les réponses des gouvernements au niveau fédéral, au niveau des États et au niveau local aux manifestations pacifiques, y compris l'usage présumé d'une force excessive contre les manifestants, les passants et les journalistes. Ces conclusions devraient être rendues d'ici un an.
Au Bénin, le meurtrier d'une fillette de 7 ans a été condamné hier à la réclusion criminelle à perpétuité. L'accusé, âgé d'une trentaine d'années, Zogny Bignon Martial, a reconnu avoir froidement kidnappé et assassiné à son domicile le 3 février dernier l'écolière. L'affaire de crime rituel a soulevé une grande indignation au Bénin.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Berlin réagit à l'annonce par Washington d'une réduction prochaine des troupes américaines en Allemagne, estimant que leur présence est importante pour la sécurité américaine et européenne. Le point avec Abdourahman Zia.
Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a indiqué que la présence américaine en Allemagne est importante pour la sécurité non seulement de l'Allemagne, mais aussi pour la sécurité des États-Unis et particulièrement pour la sécurité de l'Europe. Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a lui aussi déclaré ce mardi que les troupes américaines en Europe ont rendu les deux côtés de l'Atlantique plus sûrs. Il a aussi affirmé avoir discuté du sujet hier avec le président américain Donald Trump. La question sera d'ailleurs au menu d'une réunion par visioconférence des ministres de la Défense de l'OTAN mercredi et jeudi. Donald Trump a confirmé hier vouloir réduire à 25 000 le nombre de militaires américains stationnés en Allemagne. M. Trump a justifié sa décision par le fait, selon lui, que Berlin ne contribue pas assez au budget de l'OTAN. « Nous protégeons l'Allemagne et ils ont des arriérés. C'est ridicule », a-t-il indiqué. Selon les chiffres du Pentagone, près de 35 000 soldats américains sont basés en Allemagne, mais ce chiffre peut monter exceptionnellement jusqu'à 52 000 lors de rotations ou d'exercices militaires.
La Russie a promis ce mardi de soutenir fermement l'Iran contre les puissances occidentales. À l'heure d'une crispation des relations entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et Téhéran, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a reçu à Moscou aujourd'hui son homologue iranien, Mohammad Javad Javad Zarif, la IEA est réunie depuis hier à Vienne pour débattre d'une proposition de résolution visant l'Iran, projet soumis par l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. L'armée indienne indique ce mardi avoir perdu 20 soldats dans une confrontation avec l'armée chinoise sur la frontière disputée au Ladakh dans le nord de l'Inde, premier accrochage militaire meurtrier en 45 ans entre les deux puissances nucléaires asiatiques. Le président Donald Trump a signé ce mardi un décret ordonnant une réforme à limiter des forces de l'ordre pour tenter de répondre au mouvement de colère contre les violences policières et le racisme qui secoue les États-Unis. Ce décret inclut l'interdiction des prises controversées d'étranglement, sauf si la vie d'un policier est en danger, a précisé le président américain après avoir rencontré en privé des familles de victimes de violences policières ou racistes. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale là ce soir. Sans plus tarder, en résumé des nouvelles économiques en Afrique, la Minute Éco avec Ekia Badou.
Le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale a approuvé un crédit de 315 millions de dollars, soit 157,5 milliards de francs CFA, à la Côte d'Ivoire pour prévenir les risques d'inondation et améliorer la qualité de gestion des déchets solides à Abidjan et les grandes villes du pays. Une première dotation de 37 millions de dollars sera consacrée à une meilleure canalisation des eaux pluviales dans les communes les plus exposées, Yopougon, Abobo et Grand Bassam. La demande pétrolière connaîtra un rebond historique l'an prochain après la chute causée par la pandémie de Covid-19, mais sera limitée par la crise existentielle du secteur de l'aviation, a prévenu ce mardi l'Agence internationale de l'énergie. Dans ses premières prévisions pour 2021, elle anticipe un bond inédit de 5,7 millions de barils par jour de la demande mondiale par rapport à 2020. De belles perspectives s'annoncent pour le secteur de l'or, alors que le cours du métal précieux a plus que résisté à la pandémie de Covid-19, le cabinet Fitch lui prédit un avenir encore plus radieux. Le Ghana devrait poursuivre sur sa lancée qu'il a vu détrôner l'Afrique du Sud comme premier producteur d'or du continent.
Et maintenant, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Je ne saurais partir sans remercier entraîneurs, bénévoles, personnels et sans oublier mes chers supporters. Sans vous, je n'aurais pas été à ce niveau. J'ai été fier de défendre les couleurs de mon pays. Ce fut avec joie et honneur. C'est en ces termes qu'Henri Bédimo, ancien international camerounais de 36 ans, a annoncé la fin de sa carrière professionnelle. Bédimo met ainsi un terme à 15 ans de carrière passée en club en France. Le Havre, Châteauroux, Toulouse, Lens, Montpellier, Lyon, Marseille. Il a remporté la Ligue 1 avec Montpellier en 2012. Ce club lui a offert récemment un rôle d'éducateur auprès de ses jeunes. L'ancien Lyon indomptable est aussi propriétaire d'une académie de football à Douala. Et puis, le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a averti les fans de rester à l'écart des stades pour la reprise de l'élite demain mercredi. À huis clos, le championnat anglais reprend avec deux matchs en retard de la 28e journée. Le premier est une affiche de gala entre Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez et Arsenal du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Les Gunners, 9e du championnat avant son interruption avec 40 points, ont besoin d'une victoire pour continuer de croire à la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions et actuellement occupée par Chelsea. La deuxième rencontre oppose Aston Villa à Sheffield United. Athlétisme, World Athletics a rejeté la demande de la Fédération russe de reporter le paiement d'une amende infligée pour ses manquements aux règles antidopage. Cette amende de 5 millions de dollars à laquelle la Fédération russe a été condamnée en mars doit être réglée le 1er juillet au plus tard. Si elle ne paye pas dans les délais impartis, son quota de 10 athlètes russes autorisés à courir sous bannière neutre sera suspendu. La semaine dernière, plusieurs athlètes russes, dont la star Maria Lassitkine, ont appelé leur fédération à régler l'amende due à World Athletics en disant craindre qu'il manque non seulement la prochaine saison internationale, mais aussi les Jeux Olympiques de Tokyo. Ici aux États-Unis, le patron de la Ligue professionnelle de football américain, Roger Goodell, a encouragé les équipes à recruter le quarterback Colin Kaepernick. Sans équipe pour avoir posé le genou à terre pendant l'hymne national, Kaepernick, 32 ans, n'a plus joué depuis le 1er janvier 2017. Une élimination en play-off avec San Antonio contre Seattle. Au cours de cette saison, il s'est agenouillé avant les matchs pour protester contre les violences policières contre les Noirs. En fin de contrat, il n'a pas été conservé par les 49ers et aucun club n'a souhaité le recruter. Il est alors entré en conflit contre la NFL, estimant qu'on lui refusait injustement un emploi, avant de trouver un arrangement à l'amiable en février 2019, après quoi la Ligue a organisé un entraînement pour qu'il parvienne à convaincre des franchises de l'engager en vain.
Merci, Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, un programme de VO Afrique. Merci pour votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Au Gabon, l'heure est au préparatif de la reprise des cours dans les universités et grandes écoles. Les établissements avaient été fermés sur ordre du gouvernement en mars dernier pour cause du coronavirus. Le calendrier de rentrée du ministère de l'Enseignement supérieur a débuté cette semaine par l'opération d'identification des étudiants et la mise en place de la commission chargée de penser la réforme du téléenseignement. Les principaux syndicats des enseignants ne sont pas prêts à un retour avant l'insatisfaction de certaines revendications. Le point à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiorunze.
Pamela, étudiante en sociologie, retrouve l'université après plusieurs semaines de vacances forcées.
Et le temps était vraiment long et vu les activités qu'on a eues à la maison, il va falloir encore du temps pour se mettre au pas.
Le calendrier de reprise des activités académiques et administratives divise cependant le ministère de l'Enseignement supérieur et le corps enseignant. Pour les membres de la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo de Libreville, il faut reprendre les cours. Mabi Kapambou, chargé de la communication de la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo.
Nous avons dit au ministre que la crise entre papa et maman, ce sont les enfants qui prennent un coup. Donc nous attendons à ce que les deux parents, donc le gouvernement et les enseignants, s'asseyent pour résoudre la question épineuse d'argent pour que les uns et les autres reviennent à de meilleurs sentiments.
L'administration de l'établissement a entamé le processus d'inscription et de réinscription des étudiants qui concerne cette semaine les départements de sociologie et de psychologie. La faculté des lettres et sciences humaines attend du beau monde. Patricia Essono, superviseur de l'opération.
Pour les deux départements de la faculté de lettres et sciences humaines, nous attendons au moins 5 000 qui ne se sont pas réinscrits. Nous en avons déjà inscrit 18 000.
Pour les enseignants-chercheurs initiateurs de l'appel au boycott du programme de rentrée universitaire, la réforme du téléenseignement exige une formation des formateurs. Mathurin Ondor, membre du syndicat national des enseignants-chercheurs.
Nous devons passer à une autre étape, c'est celle de la virtualisation de l'enseignement. Il faudrait que nous soyons aussi formés à cet outil.
Pas question d'une année blanche dans les universités et grandes écoles gabonaises. Aurélia Massala, secrétaire générale de l'université Omar Bongo.
À notre niveau, nous essayons de faire participer l'ensemble des acteurs, que ce soit l'administration, que ce soit les enseignants, pour que ce saut qualitatif se fasse dans la sérénité. Et naturellement, il prendra en compte notre environnement, nos problématiques.
La rentrée du 14 septembre prochain dans les universités et grandes écoles risque d'être aussi compromise par cette autre exigence des syndicats de l'enseignement supérieur portant paiement de leurs arriérés de primes datant de 2014. Libreville, Ismaël Obiorunze pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Niger, toujours pas de liberté pour trois activistes arrêtés en mars dernier alors qu'ils prenaient part à une manifestation pour exiger la publication d'un rapport d'audit au ministère de la Défense. L'enquête a relevé beaucoup d'irrégularités dans les marchés d'achat d'équipements militaires. Les organisations de la société civile exigent la libération de ces trois militants. Les avocats de certains fournisseurs mis en cause rejettent les accusations portées contre leurs clients. Les détails avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Au 90e jour d'emprisonnement de leurs camarades pour participation à une manifestation interdite projetée pour exiger la transmission du rapport d'audit du ministère de la Défense nationale à la justice, les organisations de la société civile ont, dans une déclaration, exigé à nouveau leur libération car, disent-elles, les vraies motivations de leur arrestation sont désormais connues. Moussa Tiangari, de l'association Alternative Espace Citoyen.
Aujourd'hui,
Avec l'étude du fameux rapport d'inspection du ministère de la Défense nationale, les Nigériens et les Nigériennes ont compris pourquoi une manifestation pacifique, régulièrement déclarée et qui n'a pas été interdite, a été brutalement réprimée avec les conséquences collatérales que l'on sait. Nous, organisations de la société civile nigérienne, tenons à lancer un appel à la mobilisation générale à toutes les forces sociales et politiques autour des questions suivantes. La libération immédiate et l'arrêt des poursuites engagées contre nos camarades. La désignation d'un juge véritablement indépendant et intègre pour prendre en charge l'épineux dossier des malversations financières et autres crimes économiques mis à jour par le rapport d'inspection du ministère de la Défense nationale. La mise à l'écart immédiate de toutes les personnes, civiles ou militaires, fonctionnaires ou responsables politiques, impliqués dans cette affaire grave de malversation au ministère de la Défense nationale et la prise des mesures conservatoires contre les fournisseurs et autres prestataires cités par le dit rapport.
Dans cette affaire de l'audit du ministère de la Défense nationale, les avocats des fournisseurs incriminés dans le rapport ont eux aussi donné de la voix ce lundi. Maître Marc Le Bihan.
Dans l'audit du ministère de la Défense, trois types de manquements prétendus ont été essentiellement relevés. Il s'agit d'une prétendue absence de livraison, d'une livraison partielle et de surfacturation. D'un point de vue juridique, il n'est pas possible de rechercher, poursuivre, inculper un individu pour des faits de surfacturation. Le constat que l'on fait depuis le déclenchement de cette affaire est que nos clients qui ont pourtant livré la quasi-intégralité du matériel qui leur a été commandé sont vilipendés, stigmatisés, humiliés, injuriés, diffamés.
A noter que pour l'instant, aucune personne incriminée dans le dit rapport n'a été arrêtée. La police judiciaire poursuit encore les enquêtes. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Cameroun, l'un des pays africains les plus touchés par la pandémie de Covid-19, c'est la lutte contre les fausses informations sur le virus qui est également menée. Les autorités sanitaires interviennent sur les réseaux sociaux pour contrer ce phénomène. Un reportage d'Anne Zonke à Yaoundé, relaté par Nathalie Barge.
Les agents de santé doivent répondre à d'innombrables rumeurs sur le coronavirus qui affirment que les hôpitaux sont débordés et que les tests ne sont pas disponibles ou onéreux. La directrice de l'hôpital de la Caisse nationale d'assurance sociale du Cameroun, Anne Jomland, publie ainsi des informations sur Twitter pour contrer ces rumeurs et rappeler au public que les tests sont gratuits.
Je crois que c'est un canal vraiment qui permet d'informer et surtout que quand vous avez des followers qui ont beaucoup de followers, ça fait qu'effectivement l'impression du tweet peut aller très loin et je crois que vraiment ça aide la communauté, il faut le dire.
Les Nations Unies ont lancé en mai le programme Verified visant à promouvoir sur le net les premiers intervenants dans la crise sanitaire comme le professeur Land afin de lutter contre la désinformation sur le coronavirus. Au Cameroun, ICT Media Strategies a créé Smart Click Africa et Covid-19.cm pour rappeler au public de vérifier toute information. Bogas Oren Joyoum est directeur du groupe de médias.
La première question à se poser, c'est de savoir qui poste l'information. Est-ce que la personne qui poste l'information est une personne ressource? Cela implique qu'il faut aller voir son profil pour savoir si c'est un médecin. Cette personne a l'habitude de poster des informations vérifiées et vérifiables.
Le rédacteur en chef du journal Camerounais Mosaïque, Parfait Ababsi, affirme que les efforts de lutte contre la désinformation aboutissent, en particulier lorsque des experts comme la professeure Nland sont impliqués.
Le professeur en question est déjà professeur de médecine, ce qui est déjà quelque chose de très important. Et ensuite, elle est responsable d'une unité hospitalière de référence au Cameroun, Kassima et Yaoundé. Donc, c'est ces deux raisons-là qui font que quand on a besoin d'un certain type d'information, on est obligé, carrément la profession vous oblige à aller voir de ce côté-là.
D'ailleurs, la directrice de l'hôpital, qui est également présidente de la Société camerounaise de pédiatrie, prévoit d'étendre son rôle d'intervenante numérique pour combattre la désinformation sur la santé maternelle et infantile.
Gourmandia avec vous, cette semaine dans Washington Forum, le Burundi sur le point de tourner une page de son histoire après la mort subite du président Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 15 ans. Évariste Ndayishimiye, le candidat du parti au pouvoir CNDD-FDD qui a remporté les élections du 20 mai, va prendre fonction plus tôt que prévu. Quel est l'héritage du président Nkurunziza? Le nouveau chef de l'État pourra-t-il réconcilier les Burundais et sortir le pays de son isolement diplomatique? Nous allons débattre de tout cela avec nos invités ce jeudi 18 juin 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.
Kampala est la ville qui ne dort jamais. La vie nocturne, très animée de la capitale ougandaise, est connue dans toute l'Afrique avec de nombreux fêtards qui affluent en temps normal. Mais Covid-19 oblige, les boîtes de nuit ont été contraintes de fermer leurs portes temporairement pour aider dans la lutte contre l'épidémie. Les chaînes de télévision en ont profité pour transformer le studio en boîte de nuit avec des retransmissions en direct de DJ et d'artistes qui proposent des spectacle virtuel. Lionel Gaïma nous en dit davantage.
L'Ouganda continue d'alléger lentement les mesures prises pour combattre le coronavirus. Kampala a retrouvé un peu de vie avec la réouverture des marchés, des commerces, garages, des ateliers et quincailleries fermés depuis 3 mois. Mais les boîtes de nuit n'ont pas rouvert. Certains disc-jockeys ont toutefois trouvé le moyen de maintenir la fête en transformant des studios de télé en véritables boîtes de nuit. Lumière éblouissante, chaîne Hi-Fi complète, écran LED, tout y est. Le DJ et présentateur de télévision Esco Kizito, connu sous son nom de scène Esco Star, donne ici le coup d'envoi d'une émission en direct qui accompagnera les téléspectateurs jusqu'aux petites heures du matin, comme s'ils étaient dans une boîte de nuit.
L'objectif est de divertir les gens à la maison, ceux et celles qui ont l'habitude de sortir le week-end, de faire la fête avec leurs amis. Et en cette période, bien sûr, vous devez rester à la maison et vous faites la fête à votre manière. Nous vous encourageons à rester à la maison et à rester en sécurité tout en vous divertissant, car c'est ce que nous faisons le mieux.
Les boîtes de nuit ont fermé le 18 mars avant que le confinement total soit imposé le 31 mars. Les spectacles virtuels que proposent des DJ et des artistes sont diffusés le vendredi et le samedi. Anne Nixon Nakawombe est la productrice de l'émission NTV Dance Party.
Dans l'émission de ce soir, nous rendons hommage aux agents de santé, aux médecins, aux infirmières, à tous ceux qui risquent leur vie pour soigner tous les patients de cette pandémie. Nous leur disons merci.
Pour un samedi soir, les rues de Kampala sont calmes. En temps normal, elles sont bondées de fêtards, mais les gens ont dû s'adapter. Anderson Luzé a décidé de faire la fête chez lui.
Cela vous détend, on apprécie. C'est comme ça que certains le font aussi sur les réseaux sociaux. Les gens font des concerts. Vous avez vu comment Bobby One l'a fait? Tous les médias sont bons.
Pour de nombreux musiciens et artistes, les chaînes de télévision sont comme une bouée de sauvetage pour continuer à se produire en période de coronavirus. Coco Finger, un nom connu de la musique dancehall en Ouganda.
Cela m'a soulagé du stress. Rester tout le temps à la maison, c'est stressant. Mais prendre part à des programmes me donne un peu d'énergie. Je divertis les gens et ils apprécient, même dans leur salon.
Le gouvernement n'a promis aucune aide aux musiciens. Desire Directford Mugumisa est en charge de relations publiques et des communications de Next Media, propriétaire de NBS TV, une chaîne de télévision populaire en Ouganda.
We know that the sponsors are no longer there.
Il n'y a plus de concerts, plus de soirées à thème. Les artistes ne se produisent plus. Nous ne sommes donc qu'un moyen qu'ils peuvent utiliser. Ces artistes nous font confiance et leurs fans demandent leur musique tous les jours. On ne doit pas arrêter la musique.
Et c'est donc la fête qui se poursuit à Kampala, pas dans les rues, mais par la télévision et dans les salons, alors que le pays continue prudemment à retourner à la vie normale. Et voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph, Joseph Morissin, Georges Léonard Sagnot et Lionel Gaïma. L'info continue sur nos ondes et en ligne sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro.